Alors, on va laisser la parole maintenant à une autre jeunesse. Merci Urbain pour ton service, ton cœur de serviteur aussi. Seigneur, je veux t'apporter Urbain et en ton nom, je veux le bénir. Seigneur, tu remplis son cœur, tu remplis son esprit de ta sagesse, tu remplis sa bouche et que par sa bouche, nous soyons instruits, encouragés, renouvelé pour ce temps qui vient devant nous. Amen.
Amen.
Bon, alors nous, on n'est pas partis avec les enfants, mais bon, on a quand même le droit au Lego. Donc, on va parler des 7 paroles que Jésus a dit quand il était sur la croix. Et Jésus a prononcé 7 phrases quand il était sur la croix. Et ces phrases, elles éclairent pour nous qu'est-ce que la croix et qu'est-ce qui est, pourquoi la croix, comment ça s'est passé, comment Jésus, lui, il a vécu ce moment-là, ces instants, et qu'est-ce qui a été dit qui est important pour nous quand Jésus était à la croix. Donc, il y a 7 paroles et aucun des évangiles les rapporte toutes. Matthieu et Marc, une seule. Et donc sur les 6 autres, il y en a 3 dans Luc et 3 dans Jean. Donc les 7 paroles ici, donc, il y a la prière pour les bourreaux, son salut pour l'un des brigands, sa disposition pour sa maman, son cri d'abandon, sa terrible soif, son cri de triomphe et son abandon final. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, donc on va passer une par une et puis on verra. Donc il y a ces 7 paroles, elles sont vraiment un trésor, elles sont précieuses, elles nous dévoilent des pensées de Jésus et des pensées qu'on n'avait jamais vues, pas forcément avant. Et on verra donc que dans ces paroles, il n'y en a aucune qui est amère, il n'y en a aucune qui est plaintive, et dans toutes celles-là, il y a vraiment l'expression, soit de son amour pour nous, tellement il nous aime, soit du péché qu'il a porté pour nous à la croix, ce péché qui était dur, et soit de sa victoire. Il a gagné Jésus à la croix, c'est aussi une victoire. Donc on va commencer par la première, donc il a prié pour ses bourreaux. Donc dans Luc 23, Jésus disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». On voit là sur les images qu'il se fait crucifier, donc le clou dans les mains. Mais lui, ce n'était pas des mains en Lego, hein, c'était des vraies mains. Et les soldats qui se déchiraient le manteau de Jésus. Donc Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les 3 premières paroles de Jésus qu'on va voir, celle-là et 2 autres, placent vraiment Jésus comme un exemple pour nous. C'est le plus grand exemple à suivre. Et ça nous exprime que Jésus, au plus mal, avait cet amour immense envers les autres. Au verset 28, un peu plus tôt, Jésus avait dit « Ne pleurez pas sur moi déjà ». Et Jésus, à ce moment-là, il n'a pas pleuré sur lui. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort en disant on m'a mis là, c'est l'injustice, c'est horrible, tout ça. Il n'a pas pensé à sa solitude ou à cette injustice dont il était l'objet. Et nous, c'est vrai que nous, on sait bien faire ça. Nous, dès qu'on a un petit souci, tu te rends compte, on m'a fait ça, et puis après le travail, j'ai dû rester 20 minutes, tout ça. Dès qu'il y a une difficulté, nous on pense souvent à s'apitoyer. Mais Jésus, il n'a pas eu de pensée pour lui-même. Et ces 3 paroles sont pour les autres. À ce moment-là, on voit qu'il ne lui restait plus rien. Il n'a plus d'habits, ils se sont fait déchirer par... les soldats ont pris même ses habits, qu'il n'a plus rien. Mais ce qu'il a encore, c'est l'amour. Est-ce que personne peut nous enlever, que personne peut acheter, c'est l'amour. Et la croix est vraiment l'image de ce don parfait, ce don de soi. Et il pensait à ses bourreaux, ceux qu'il accusait, qu'il vilipendait, vraiment ses brigands aussi qui étaient crucifiés à ses côtés. Il n'était pas tout seul. Et aussi, on verra plus tard à sa maman qui l'avait mis au monde. Et sa première parole, vraiment, donc c'est une prière de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vraiment incroyable, à ce moment-là, d'avoir une prière de pardon, la première chose. Ces souffrances physiques, on le rappelle, sont intolérables. C'est psychique, intolérable. Ses pieds et ses mains percés au marteau, le manteau déchiré, tout. Est-ce qu'il va penser à lui-même, se plaindre? Est-ce qu'il va demander à son Père Dieu la vengeance? Non. Les brigands à côté, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent des jurons. Mais lui, vraiment Jésus, pratique ce qu'il a enseigné. Ce qu'il a enseigné dans le serment sur la montagne, dans Luc 6, 27, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. » Vraiment, Jésus pratique ce qu'il a enseigné. Des fois, par exemple, nous, on dit « Moi, je suis plutôt quelqu'un, je suis charitable, s'il y a à peine quelqu'un qui a un problème, je vais l'aider, tout ça. » Et après, on voit quelqu'un dans la rue, « Ah non, là, excuse, j'ai pas le temps, tout ça. » Pour savoir ce que les gens pensent, quelles sont les valeurs, si par exemple, moi, je dis « je suis quelqu'un de solidaire, tout ça », il faut voir ce qu'ils font ensuite. Parce qu'on peut dire « je pense que je suis, moi, je suis chrétien, je fais comme ça ». Non. Si on le fait au plus mal, là, on voit vraiment ce que les gens pensent, ce que les gens font. Et à ce moment-là, on peut se dire aussi « mais pour qui Jésus priait ?» Donc, il y avait principalement, on pense probablement, les chefs juifs qu'il avait rejetés comme le Messie. Pour eux, les chefs juifs, ils ne l'avaient pas reconnu comme le Messie. Et donc, il y a eu aussi toute une période, après la mort de Jésus, pendant 40 ans à peu près, où beaucoup de personnes se tournèrent vers Jésus, des chefs juifs aussi qui se repentirent et crurent en Jésus. Et cette prière, on pense, on peut porter des fruits. Et en 70 après Jésus-Christ, Jérusalem sera prise et détruite. Mais il y a eu ce délai aussi de 40 ans, on peut dire de grâce, que cette prière peut-être a déclenché. Ensuite, on passe à la deuxième parole de Jésus, donc c'est le salut pour l'un des brigands. Il lui répondit au brigand repentant, donc un des deux brigands, « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Belle promesse, hein ? Jésus est au milieu entre deux brigands. Au début, dans Matthieu 27, 44, on voit qu'il l'insulte, il participe même à la haine ambiante. Même eux, ils sont au plus mal, on va dire, ils le blâment, alors qu'ils sont eux aussi au plus mal. Mais après, ça continue, et un seul seulement continue de l'insulter et de le défier. Il lui dit « Sauve-toi toi-même ». Mais l'un le reprend et comprend que Jésus est innocent. Il dit au verset 42 « Souviens-toi de moi, un des brigands ». Ça veut dire qu'en quelques minutes seulement, il reconnaît Jésus comme le roi, il est tout puissant, et Jésus est tout puissant pour le sauver. Il avait, ce brigand, sûrement entendu des prêtres, les gens se moquaient, l'inscription sur la croix « Roi des Juifs », on ne sait pas ce qu'il pouvait penser. Il entend plusieurs choses sur Jésus. Il entend aussi la parole d'avant, qu'il pardonne à ses bourreaux. Et je pense vraiment que le pardon déclenche beaucoup de choses. Il a vu que Jésus a pardonné avant. Il a réalisé que lui aussi, peut-être, il pouvait être pardonné et que sa sentence à lui était juste. Il l'a reconnu. Non, c'est vrai, moi je suis un brigand. Et Jésus répond directement, il sera avec lui au paradis. Il ne lui reproche rien. Il ne pose pas de questions au brigand. Il ne lui dit pas, est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que c'est authentique? Tu es sûr que je peux te sauver? Non. Jésus donne l'assurance à celui qui désire être sauvé. Il lui dit, je te le dis en vérité. Vraiment, Jésus promet le paradis. Il promet la joie qu'il y aura d'y aller avec Jésus et d'y aller le jour même. On se demande des fois comment les catholiques ont inventé le purgatoire. Là, il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est direct, quoi. C'est ce soir. Et il assure vraiment, Jésus dit, je te le dis en vérité. Et on peut se dire, là, c'est pas fini. Il y a encore des longues heures de souffrance à la croix pour ce brigand. Et je pense vraiment que dans ces dernières heures, le brigand a pu garder cette parole de Jésus. Il lui a promis, Jésus a promis de sa bouche, que tu seras avec moi ce soir, au paradis. Ensuite, la troisième, donc Jésus, la troisième parole de Jésus, donc c'est sa disposition pour sa maman. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple Jean, « Voici ta mère. » Donc là, dans le truc de l'ego, juste là, il y a écrit « Jésus se tenait auprès de la croix de Jésus, se tenait sa mère et sa sœur de sa mère, Marie, la flamme de Clopas, Marie de Magdala et Jean, le disciple que Jésus aimait. » Jésus regarde et voit un petit groupe de femmes ici, il voit, regarde, et l'apôtre Jean, le disciple qu'il aimait. Donc c'est vrai, il n'avait plus rien, mais il a donné le pardon, et il avait l'amour, et il avait aussi sa maman, et Jean, le disciple qu'il aimait. Il n'avait plus que ça. Et on pense, on sait très bien, nos mamans sont importantes, et elle est très précieuse pour Jésus, du point de vue humain aussi. Et la maman de Jésus, on peut se dire qu'elle ne devait pas toujours le comprendre. Parce que des fois, il avait dû sûrement parler un peu avec fermeté, Jésus, pour accomplir sa mission, et pour pas que sa maman l'empêche. Jésus, il avait une mission à accomplir, et sa maman, elle, des fois, elle devait dire, bah, c'est bizarre. Mais Jésus avait été conçu vraiment en elle, en Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Et Marie l'avait mis au monde. Marie avait pris soin de lui et l'avait aussi mis dans la mangeoire étant petit. Si on se rappelle bien. Et sa maman, c'était aussi elle qui l'avait appris, qui l'avait éduqué et appris l'histoire d'Israël, l'histoire des patriarches, l'histoire des rois et des prophètes, mais aussi, sa maman avait été aussi un exemple de piété pour lui aussi. Et on imagine difficilement ce que c'est à ce moment-là, la profondeur de cette peine que peut ressentir Marie à ce moment-là. C'est une peine horrible de voir son fils Jésus crucifié et d'être là sans rien pouvoir faire. Et encore une fois, ici, Jésus ne pense pas à sa propre peine, mais vraiment à celle des autres. Et donc, il utilise son droit en tant que crucifié. On avait le droit à une dernière, de prendre une disposition testamentaire, c'est-à-dire de dire, de donner comme un testament, quoi, de dire encore une chose pour arranger après. Et donc là, il utilise aussi dans cette phrase une terminologie de droit familial et pour remettre sa mère aux soins de Jean. Et donc après, sa maman Marie ira habiter chez Jean à Jérusalem. Dans ces trois premières paroles, on peut vraiment être étonné de l'altruisme de Jésus. Malgré la honte, malgré la douleur, il a prié pour le pardon de ses ennemis, il a promis le paradis aux malfaiteurs et il a pourvu aux besoins de sa mère qui était vraiment dans le mal à ce moment-là, on peut l'imaginer. Et c'est ça l'amour. Et dans Éphésiens 5, verset 2, l'Écriture nous dit « Marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. » Donc, la quatrième parole, c'est peut-être la plus difficile à comprendre, c'est son cri d'abandon. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les trois premières paroles qu'on a vues, c'est « nous parlent de l'amour de Jésus ». Les deux suivantes, celle-là et celle d'après, nous parle de Jésus qui a porté notre péché à la croix. Donc, pour vous refaire un peu le planning de la journée, si on peut parler comme ça, à 9h, Jésus a été crucifié. Il a donné ses trois premières paroles. À 12h, à midi, il y a eu l'obscurité qui est venue et le silence. Et à 15h, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus a donné ses trois dernières paroles. Donc là, dans cette parole, il y a l'obscurité, et ce n'était pas une éclipse de soleil, c'était la fête de la Pâque à ce moment-là, et on dit que c'était impossible qu'il y ait eu... Il y a eu l'obscurité comme ça, et c'est vraiment, c'était la pleine lune en fait à ce moment-là. Et cette obscurité est vraiment un phénomène surnaturel, et ça peut symboliser vraiment l'horreur de l'obscurité dans laquelle l'âme de Jésus était plongée, parce qu'il portait notre péché à ce moment-là. Jésus portait notre péché. Ici, il n'y a que Matthieu et Marc qui nous rapportent le cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et les spécialistes pensent qu'ils citent à ce moment-là un psaume, psaume 22:2, psaume de David. Mais c'est vraiment une parole difficile à comprendre. Pourquoi il se sent abandonné? Pourquoi il se déclare abandonné? Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. On peut pas dire, on peut pas vraiment imaginer que Jésus se trompe et que ça soit un sentiment imaginaire, que ça soit juste imaginaire. Au moment où il va se remettre à Dieu, non, on ne pense pas, ce n'est pas tellement possible. Ça veut dire que c'est vrai, il se sent abandonné. Et on pense vraiment qu'à ce moment-là, c'est Dieu abandonné de Dieu. Il y a une séparation entre Jésus, qui porte les péchés, et les paye à leur prix sur la croix. Jésus porte nos péchés, et il les paye à un dur prix, vraiment, sur cette croix. Il y a cette séparation entre Dieu et Dieu, entre la difficulté du péché humain et Dieu Tout-Puissant. Jésus exprime le poids du péché sur ses épaules, et il nous fait comprendre qu'à ce moment-là, Jésus vit l'expérience de l'abandon de son Père. Difficile à comprendre pourquoi il a été abandonné. Ensuite, Jésus a eu soif. Dans Jean 19, 28, Jésus dit « J'ai soif ». Au début, dans Matthieu 27, 34, au début, on lui donne à boire du vin mélangé à du fiel. Alors moi, je n'ai pas trop compris, je me suis renseigné un peu qu'est-ce que c'était le fiel. Donc le fiel, c'est de la bile, et la bile, c'est le liquide sécrété par le foie pour faciliter la digestion. Donc bref, en tout cas, c'est un liquide sûrement très mauvais. Jésus n'en a pas voulu. Ça ne devait pas être bon. Et donc, plusieurs heures après, donc il a soif, logique, et on lui donne du vin vinaigré. Donc du vin vinaigré, c'était en fait de la piquette, quoi. C'est ce que... c'était la boisson des soldats romains, la boisson ordinaire des soldats romains. Donc ils lui mettent sur un tissu au bout d'un bâton. Et puis, ils essayent de lui donner à boire comme ça. Et c'est la seule parole qui parle de la douleur physique de Jésus sur la croix. Jean le mentionne aussi dans cet évangile, parce que ça accomplit aussi une prédiction du psaume 22, 16 et du psaume 69, 21. Je vais vous le lire. Donc, le psaume 69, 21 dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture ». Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. On pense qu'ici, ce n'est pas juste une soif corporelle. Pourquoi Jésus dit ça dans ses dernières paroles qui sont importantes? Et ce n'est pas seulement corporel. Ça ne suffit pas à expliquer. Autrement, il ne l'aurait pas forcément aussi reporté dans les évangiles. Mais à ce moment-là, il faut se rappeler, il y a l'obscurité du ciel, donc qui symbolise les péchés, tout ça, cette obscurité qui est surnaturelle. Il y a la mort de son corps petit à petit, et cette soif symbolise vraiment encore plus le tourment de sa séparation avec Dieu. C'est-à-dire que là, il est vraiment, le corps humain souffre et il a soif, et ça nous rappelle vraiment qu'il a vraiment souffert corporellement, comme nous, on pourrait, à sa place, l'être. Notre Sauveur, Jésus, a souffert à la croix et s'est exclu à ce moment-là, vraiment, de la présence de Dieu, à cause de nos péchés. Et dans Apocalypse 7, verset 16, pour ceux qui prennent des notes, cette verset nous dit « Jésus a eu soif sur la croix pour que nous n'ayons plus jamais soif ». Quelle belle parole, Jésus a eu soif pour que nous n'ayons plus jamais soif. Il a vraiment tout porté, il a porté notre humanité, il a porté nos péchés. Donc, son cri de triomphe, dont Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Donc, dans les trois premières paroles, Jésus est un exemple. On l'a vu, il est d'amour, il pense à lui, aux autres, il se donne. Dans les deux suivantes, il est celui qui porte notre péché. Et sur les deux dernières, ces deux dernières paroles expriment la victoire vraiment remportée pour nous. Vraiment, Jésus s'est donné et la victoire est remportée. Tout est accompli. Jésus est conquérant. Il prononce cette parole des plus importantes. Cette parole est vraiment importante car elle déclare, Jésus déclare publiquement que la croix est une victoire éclatante. C'est un grand cri, pas un petit murmure, c'est vraiment « tout est accompli ». Vraiment, à ce moment-là, c'est une annonce vraiment de la victoire de Jésus. Tout est accompli. Le verbe grec qui est à la base dit « tetelestai ». C'est ce qu'on peut traduire par « tout a été accompli et demeure accompli à jamais ». Les résultats sont durables. Vraiment, ce verbe « tetelestai » dit que ça a été fait et ça restera fait. Et ça sera fait pour toujours. Jésus a vaincu, Jésus dit, tout est accompli. Jésus a terminé ce travail pour nous, pour nos vies, de porter notre péché. Et il ne nous reste rien à faire pour essayer de gagner petit à petit. Non, aucune contribution que l'on peut faire. Le salut vient de Jésus qui a tout accompli. Et cette formidable victoire, vraiment, qui est dit ici dans Jean 19:30, qui dit qu'on peut rien faire pour gagner notre place au paradis. C'est Jésus qui a tout accompli. Et à ce moment-là, il y a dans le temple le voile qui s'est déchiré. Dans Matthieu 27:51, vous pourrez retrouver ça pour ceux qui prennent des notes. Et vraiment, à ce moment-là, le voile s'est déchiré du haut vers le bas. C'est Dieu qui, c'est vraiment à ce moment-là. Et c'est la main de Dieu qui a fait cette chose-là. Avant, dans le temple, on ne pouvait pas pénétrer plus loin que le voile. Il y avait juste le grand prêtre qui avait le droit une fois par an, peut-être. Non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, à ce moment-là, le voile qui était dans le temple, qui nous empêchait aussi d'y aller plus loin, s'est déchiré. Et chacun, vraiment, peut s'approcher personnellement de Dieu maintenant. Le voile qui nous séparait de la présence de Dieu, il n'y a plus ça. Maintenant, peu importe où vous êtes, peu importe, dans votre chambre, vous pouvez être dans la présence de Dieu. Vous êtes chez vous tout seul, vous pouvez aller au plus près. Vous pouvez demander directement à Dieu les choses. Cette parole de Jésus vraiment dit, tout est accompli. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a plus de séparation. Jésus a porté notre péché et nous pouvons vraiment avoir cette intimité avec lui. C'est ce que nous dit, tout est accompli. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de « je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez qualifié, la Bible, je ne sais même pas la lire ». Il n'y a plus d'excuses. Jésus s'est donné pour nous, il a souffert pour nous. Et nous pouvons nous approcher personnellement de Dieu. Jésus a dit « tout est accompli ». Alors il y a cette dernière parole, c'est son abandon final. Dans Luc 23:46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Dans les quatre évangiles de la Bible, aucune de ces quatre évangiles nous dit qu'il est mort. Soit ça nous dit il expira, ou il rendit l'esprit, ou il baissa la tête et rendit l'esprit. Ça veut dire qu'il n'est pas mort et ensuite sa tête est tombée, c'est-à-dire qu'il baisse la tête, il se laisse, il s'abandonne, il baisse la tête, il s'abandonne à la volonté du Père, il s'abandonne. Et il dit, il fait, il indique en parole et en acte que sa mort est volontaire. Il incline sa tête, et je remets mon esprit entre tes mains. Et après, il expire. Jésus, jusqu'à la dernière minute, il aurait pu échapper à la mort. Il aurait pu sortir de tout ça. Il aurait pu se venger des moqueurs. Il aurait pu se sauver lui-même, comme on lui disait de faire. Sauve-toi toi-même. Mais c'est lui qui a fixé le temps. Il s'est laissé faire jusqu'au bout. Il a fixé le lieu et la manière de ce départ. Jésus n'est pas mort, il s'est abandonné. Il a baissé la tête et après, il expire. Ça nous fait vraiment penser que ces paroles proclament vraiment cette victoire de Jésus sur le péché. Il a pris notre péché et sur la mort. Il s'est abandonné lui-même.
Je vais revenir un peu au début.
Donc sur ces sept paroles, rappelons-nous, au plus pire de la difficulté, au plus mal, il y a trois paroles pour les autres. Où il ne s'inquiète pas de sa propre misère, sa prière pour ses bourreaux, son salut pour l'un des brigands et sa disposition pour sa maman. D'abord, en premier lieu, il va penser aux autres. Deux paroles de Jésus pour porter, qui nous expriment qu'il porte notre péché. Son cri d'abandon et sa terrible soif. Il s'est senti abandonné car il a porté notre péché. Il avait soif car il était pleinement homme. Et les deux dernières qui représentent vraiment cette victoire sur les puissances, cette victoire sur la mort, sur notre péché. Il a triomphé et ils sont étalés. Et vraiment, ces paroles sont importantes. Les dernières paroles d'une personne sont les plus importantes. Souvent, la famille va venir au chevet d'une personne qui va dire ses dernières paroles. Elles sont vraiment importantes. Dans la culture africaine, elles le sont encore plus. Tout le monde va venir à ce moment-là. Et le père va dire, toi, mon fils, fais telle chose, fais telle chose. Ces dernières paroles sont pour nous, vraiment. Ces sept dernières paroles, nous devons les chérir, nous devons les connaître, parce qu'elles sont vraiment énormes, elles sont lourdes de sens pour nous. Et nous, on ne méritait rien d'autre que le jugement à la base. Mais vraiment, cette miséricorde du Père est immense. Ces dernières paroles, elles doivent nous inspirer tous les jours. Parce que si Jésus est vainqueur du péché, si Jésus est vainqueur de la mort, ça change tout. Ça veut dire que Jésus peut intervenir dans telle situation. Jésus peut vaincre telle situation. Il a tout fait. Il a été à la croix. Il a pris tout. Jésus veut aussi nous délivrer de la culpabilité du péché. Parce que le brigand, il n'était pas là depuis longtemps, hein. Il le blâmait au début, il disait « sauve-toi toi-même », il participait à la haine, « oh Jésus, n'importe quoi » et tout. Non. Et après, juste après, il a dit « non, c'est vrai, mon péché, il est horrible, j'étais un brigand, j'étais un mauvais. » Mais Jésus, il a pas attendu, il lui a pas dit « est-ce que tu es sûr ?» tout ça. Le brigand s'est aussi laissé aller, il a reconnu qui était Jésus. Et directement, il lui a dit, tu seras au paradis ce soir avec moi. Jésus veut nous délivrer aussi de cette culpabilité, de cette peur de la mort, d'être timoré, d'être triste, de subir les choses. Jésus veut vraiment aussi nous libérer de cela avec ses paroles, ses deux dernières paroles aussi, qui sont vraiment une victoire. Gardons vraiment, je pense, dans ces dernières paroles de Jésus, gardons-en le sens dans nos cœurs, parce que c'est Jésus qui nous les adresse directement. Elles sont valables pour toutes nos situations. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ces paroles, c'est cette parole que tu as dite à la croix. Et Seigneur, vraiment, nous ne méritions rien, nous, ne méritons rien, mais Seigneur, tu as choisi de prendre notre péché, de le porter sur la croix, Seigneur, et tu as souffert. Et Seigneur, vraiment, nous voulons être dignes et garder ces paroles. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et tu nous as donné ces paroles aussi pour nous rappeler vraiment combien tu es tout-puissant, tu as gagné, tu as remporté la victoire. Et Seigneur, vraiment, aide-nous à nous rappeler quand, dans les moments difficiles, nous sommes au plus mal, à nous rappeler vraiment ces paroles, à nous rappeler que ton pardon est immédiat, à nous rappeler que tu peux pardonner au pire moment. Et Seigneur, vraiment, aide-nous à être plus comme toi, à être plus proche de ton cœur, Seigneur, et à pouvoir vraiment aussi penser aux autres. Tes trois premières paroles, Jésus à la croix, n'étaient pas pour toi, ne te concernaient pas. Seigneur, vraiment, aide-nous à penser aux autres. Aide-nous à aller plus loin dans le service, dans le pardon. Aide-nous à passer au-delà des choses. Merci, Seigneur.